Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Éric Coquerel, les sondages annoncent que Jean-Luc Mélenchon peut se qualifier au second tour de l'élection présidentielle et donc empêcher Marine Le Pen de se qualifier. Vous avez connu la campagne électorale de 2017. Aujourd'hui, considérez-vous que Jean-Luc Mélenchon est aux portes du pouvoir ?
Possiblement, en tout cas. En tout cas, j'y crois plus qu'en 2017, pour tout vous dire. D'une part parce que bon, Jean-Luc Mélenchon, là, est dans les environ dans les 16% dans les sondages. Moi, je pense qu'il est sous-estimé. Il est sous-estimé parce que les sondages indiquent 30% d'abstention. Et il faut que vous sachiez qu'une semaine avant 2017, ils annonçaient la même chose. Ça s'est transformé finalement en seulement 22%. Et moi, je crois que dans les catégories qu'ils imaginent très abstentionnistes, les jeunes, les quartiers populaires, les classes populaires en général, eh bien, finalement, il va y avoir un vote plus important et un vote pour Jean-Luc Mélenchon, parce que les gens ont compris que non seulement c'était la possibilité de faire barrage à l'extrême droite tout de suite, au premier tour, mais qu'en plus, le programme correspondait quand même à leurs besoins et à leur nécessité de l'heure.
Donc là, vous lancez un appel aux habitants des quartiers populaires, aux jeunes, il faut voter le 10 avril.
Ah bah très clairement. Très clairement, il faut servir de son bulletin de vote. Vous savez, dans les quartiers riches, entre guillemets, les gens vont aller voter à 100%. Tous ceux qui ont intérêt à ce que le système continue tel qu'il a été pendant 5 ans, c'est-à-dire le quinquennat le plus inégal de la 5e République, avec des cadeaux aux plus riches de manière absolument indécente, vont aller voter. Donc ceux qui ont intérêt à l'inverse, c'est-à-dire en gros renouer avec ce qui fait notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité, eh bien, ont intérêt aussi à aller voter pour leurs propres intérêts.
Éric Coquerel, est-ce que vous considérez que le programme présenté par Jean-Luc Mélenchon, l'Avenir en commun, est un programme d'extrême gauche, ou bien c'est un programme de gauche qui, par certains aspects, peut rappeler celui du Front populaire ou encore la victoire de François Mitterrand?
Non, d'extrême gauche, non. Moi, j'ai rien contre l'extrême gauche. Elle est représentée dans ce scrutin avec Philippe Poutou, avec Nathalie Arthaud. Voilà, c'est représenté. Nous, on n'est pas l'extrême gauche. On est une gauche qui présentons un programme, par contre, de rupture. Ça, c'est clair, avec le néolibéralisme. Parce que ce que fait Monsieur Macron, et vous savez, quand vous regardez le programme de Mme Le Pen, c'est guère différent. Hein. Ce n'est rien d'autre, finalement, que cette vieille rengaine qu'on connaît depuis Reagan, Thatcher, qui laisserait penser que plus vous mettez des richesses aux mains de quelques-uns, plus ça va bénéficier à toute la société. Bah, c'est pas ce qui se passe. Et le fait de vouloir mettre la retraite à 65 ans, c'est quand même radical. Donc nous, on a finalement un programme qui s'apparente à ce qu'a été, vous l'avez dit, le Front populaire, ou même les premiers mois du programme commun de la gauche. En 80, c'est un programme de rupture.
Votre principal adversaire avant le premier tour, c'est Marine Le Pen. On a l'impression aujourd'hui que c'est une femme de droite classique. Elle est même qualifiée de gauche par certains. Vous qui êtes un vieux militant antifasciste, qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen? Est-ce qu'elle est très différente de son père?
Bah, déjà, elle a bénéficié de quelque chose pendant cette élection, c'est Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour a fait tellement dans le radical, d'un point de vue d'extrême droite, la théorie du grand remplacement, c'est une théorie totalitaire. Hein, puisque ça équivaut à dire que 8 millions de nos concitoyens, parce qu'il serait soit de couleur qui ne va pas à M. Zemmour, soit de religion qui ne va pas à M. Zemmour, et je pense notamment à la religion musulmane, pourrait être potentiellement expulsé du pays. Donc c'est bon. Alors quand vous dites ça, Marine Le Pen, finalement, elle est modérée. Mais quand vous regardez le programme de Marine Le Pen, vous voyez les vieilles caractéristiques de l'extrême droite. À l'instant, le droit du sang. Le droit du sang, dans notre pays, c'est Vichy. C'est-à-dire un régime qui n'était pas républicain et qui a travaillé au diapason du nazisme. C'est le fait de s'en prendre sans arrêt aux immigrés, aux étrangers, comme étant les cibles prioritaires, et finalement, de façon à ne pas parler du problème qui fâche quand on regarde son programme, c'est qu'elle ne remet pas du tout en question les avantages du capital, les avantages des rentiers, des actionnaires, qui ont bénéficié des années Macron. De ce point de vue-là, elle propose la même chose, elle propose de rallonger l'âge de départ à la retraite, elle propose pour augmenter les salaires, de prendre sur les cotisations sociales, ce qui est une façon complètement détournée d'augmenter des salaires, parce qu'on a besoin des cotisations pour payer la santé, les retraites, etc. Et on pourrait comme ça additionner les mesures. En réalité, c'est un mépris de race et un mépris de classe cachée.
Éric Coquerel, j'aimerais savoir ce qui changera concrètement dans la vie des habitants de la Seine-Saint-Denis et des autres quartiers populaires de France si Jean-Luc Mélenchon est élu président.
Vous savez, en Seine-Saint-Denis, vous savez, il y a plusieurs maires, dont mon ami Asdine Taibi, maire de Stein, qui, il n'y a pas très longtemps, ont intenté un procès à l'État pour rupture vis-à-vis de l'égalité républicaine. Parce que dans les cités populaires, dans les villes populaires, on a moins de services publics qu'ailleurs. On a des enseignants moins formés, on a moins de moyens pour la justice, etc., etc. Donc, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est clair. Nous, on remet le paquet, par exemple, sur les services publics, qui d'ailleurs ne seront pas ouverts à la concurrence, parce que c'est pas une bonne manière d'aborder les choses. On remet le paquet sur les revenus du travail. Cette fois-ci, à l'inverse, au détriment du revenu du capital, on augmente le SMIC à 1 400 € net. On fait des conférences annuelles pour augmenter le SMIC dans lesquelles les partenaires sociaux se réuniront. On remet la retraite à 60 ans, minimum au SMIC. On fait, ce qui concerne beaucoup de jeunes des milieux défavorisés, on instaure un revenu garanti pour les jeunes dans les lycées professionnels, les étudiants, de 1 000 € par mois pour qu'ils puissent faire leurs études correctement sans avoir à faire des petits boulots précaires. Et puis, on met aussi le paquet, par exemple, sur un des gros problèmes des quartiers populaires, le logement. Le logement, il n'y a plus assez de logements sociaux dans les quartiers.
Et je rappelle que la trêve hivernale a pris fin il y a quelques jours et que les expulsions sont à nouveau possibles.
Mais oui, et enfin, chacun sait. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à Épinay, rue de Marseille à Épinay, dans des immeubles HLM qui vont être détruits par l'ANRU. Et en attendant qu'ils sont détruits, il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus de chauffage, il y a des inondations terribles, ce qui fait que les gens vivent dans des manières indignes. Le logement est très certainement un des problèmes numéro un des quartiers populaires. Donc nous, on construit 200 000 logements sociaux par an, on encadre les loyers à la baisse, on fait une garantie de loyer assuré par l'État, ce qui fait que vous n'aurez plus besoin d'avoir des parents ultra riches ou avoir trois fois les revenus d'un appartement pour pouvoir le louer. Donc ça, par exemple, c'est des choses qui vont concrètement changer la vie des gens.
Éric Coquerel, quand on habite un quartier populaire, il arrive que l'école ne tienne plus ses promesses. Comment rétablir l'égalité à l'école? Comment permettre aux jeunes d'accéder aux meilleures formations, alors qu'aujourd'hui Parcoursup suscite beaucoup de frustration et de déception?
Eh ben déjà, vous abrogez Parcoursup, pour commencer. C'est-à-dire, vous revenez à l'idée qu'à partir du moment où vous avez le bac, vous avez le droit de faire des études.
Voilà. Et après, en même temps, il manque de place.
Eh bien, on les crée. On va construire des universités, on va recruter des enseignants, etc. Donc, on va faire l'inverse de ce qui a été fait depuis des années. Ce qui a été fait depuis des années, c'est qu'on adapte le nombre d'étudiants par rapport aux moyens qu'on met sur l'université. Nous, on va mettre les moyens à l'université par rapport au nombre d'étudiants qui ont le droit d'aller à l'université. Ça, c'est la règle numéro un. Mais avant l'université, on embauche 190 000 personnes en 5 ans dans les écoles, toutes catégories, et pas seulement les enseignants, je pense aussi aux médecins scolaires, infirmières, psychologues, ce qu'on appelle les surveillants, les aides d'éducation, etc.
Les personnes qui les aident ASH, aussi les enfants en situation de handicap.
Voilà, les ASH à qui non seulement on les recrute, on les titularise et on leur donne des revenus corrects par rapport à leur métier. Et puis aussi, on fait en sorte, par exemple, de créer, ne pas faire ce que fait M. Macron. Je ne sais pas si vous avez entendu, M. Macron dit, les enseignants, je veux bien les payer mieux, mais à condition qu'ils fassent des remplacements ou des devoirs le soir, c'est-à-dire qu'ils travaillent plus. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On va créer un corps d'enseignants remplaçants qui auront justement pour vocation à aller remplacer un de leurs collègues quand il est malade ou autre. Et c'est un des gros problèmes dans nos quartiers. Le nombre d'heures de comme ça perdues en Seine-Saint-Denis ou dans tous les quartiers populaires. Donc voilà, on va mettre le paquet sur l'école.
Et le pouvoir d'achat, Éric Coquerel, sera une priorité de Jean-Luc Mélenchon? Les prix seront véritablement encadrés?
On est pour carrément bloquer les prix. Déjà du carburant, de l'énergie et des prix de première nécessité. Alors vous me direz, comment vous allez les choisir? On trouve que ce qui se fait à La Réunion est plutôt intelligent. C'est-à-dire que c'est des associations, les usagers, les syndicats qui se réunissent et qui déterminent quels produits doivent être bloqués. Donc, premièrement, blocage des prix. Deuxièmement, il faut, je vous l'ai dit, augmenter les salaires. Parce que le gros problème qu'on a dans notre pays depuis 30 ans, c'est qu'on n'a pas arrêté de voir la part de richesse nationale aller vers le capital. Et là, c'est par exemple M. Macron qui a accéléré le processus avec la suppression de l'ISF, la flat tax, qui fait que, tenez-vous bien, aujourd'hui, 5 personnes en France possèdent l'équivalent de 27 millions de nos concitoyens. C'est pas supportable. Donc pour ça, il faut augmenter les salaires, je l'ai dit avec le SMIC, avec les retraites, avec des revenus garantis, faut que ça aille vers les revenus du travail, tous ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre.
Éric Coquerel, je me rappelle qu'en 2017, déjà on se posait la question des droits sociaux des travailleurs ubérisés. Vous avez soutenu les luttes de ces travailleurs, les luttes aussi des femmes de ménage dans les hôtels, mais comment, par la loi, obliger les multinationales à accorder à ces travailleurs les mêmes droits qu'aux salariés?
Eh ben, on va suivre la directive qui a été votée par le Parlement européen sous instigation de Laïch Habib, un collègue député, qui a proposé une directive qui a été adoptée, donc qui n'est pas obligatoire pour les États peuvent y souscrire ou pas, qui requalifie en salariés les travailleurs des plateformes, et nous l'appliquerons en France.
La Seine-Saint-Denis rencontre de grands problèmes dans l'accès à la santé. Il faut des mois pour avoir rendez-vous avec un spécialiste. À l'hôpital, un même médecin peut proposer des consultations dans le public, mais il faut attendre encore des mois. Et on peut avoir un rendez-vous plus rapide si on accepte de payer plus. Tout le monde n'a pas accès aussi à une bonne mutuelle. De quelle manière mettrez-vous fin à cette inégalité de traitement sur la question de la santé, Éric Coquerel?
Alors premièrement, on va arrêter avec les politiques qu'on court depuis des années, pas seulement sous Macron, c'est-à-dire où on applique des règles d'austérité à l'hôpital public. Voilà. Sachez que depuis qu'il y a le Covid, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, on a continué en gros à supprimer 1 milliard d'euros par an au budget de l'hôpital public en France. On a continué à supprimer des lits. 5700 lits l'an dernier, en tout on en aura supprimé 17 000 sous Emmanuel Macron. Donc d'abord, on ferme plus un lit. Ce qui veut dire par exemple que là, à l'endroit où je vous parle, nous sommes à Clichy, vous savez qu'il y a un projet d'hôpital, de construire un grand hôpital à Saint-Ouen qui ferme Beaujon et Bichat, deux hôpitaux de proximité. On les maintient et on en reconstruit un troisième, un peu plus au nord dans Seine-Saint-Denis, là où ça manque, mais on ne fait pas un projet qui prévoit de supprimer 400 lits. Donc, pas de fermeture de lits. Deuxièmement, on prévoit, par rapport aux déserts médicaux, d'embaucher des médecins fonctionnaires qui iront, pendant un certain nombre d'années, là où on leur dit d'aller, et en échange, ils auront leurs études payées. Voilà, c'est un moyen, et ainsi que des centres de santé publique. Et sur l'histoire des mutuelles, tout ce que nous proposons très clairement, c'est 100% sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on arrête avec la part de la Sécu, et puis pour ceux qui peuvent se le payer, une mutuelle. Donc on fera un transfert des salariés, des mutuelles, vers la sécurité sociale, mais on veut 100% sécurité sociale.
Durant ce quinquennat, vous avez fait partie des députés aux côtés de Jean-Luc Mélenchon qui ont combattu la loi sur le séparatisme. Je rappelle que c'est au nom de cette loi que des associations ont été dissoutes, des associations de lutte contre l'islamophobie, des associations de la gauche radicale, mais aussi de l'ultra-droite. Si vous parvenez au pouvoir, est-ce que vous reviendrez sur cette loi?
On l'abrogera tout de suite, immédiatement.
Pourquoi?
Bah, tout simplement parce que c'est une loi de discrimination et de création d'un ennemi intérieur qui est à la figure du musulman. C'est-à-dire que, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, ce d'ailleurs en quoi l'État, dès le départ, le gouvernement, dès le départ, a dit que la loi n'y répondait pas, parce que lutter contre le terrorisme, c'est des questions de police, de renseignement, et non pas des questions de... Eh bien, finalement, on a commencé à pointer du doigt une religion plutôt que les autres, et à lui appliquer des choses qu'on n'applique pas aux autres. Donc il y a une inégalité de fait qui est de ce ressort. Et moi, vous savez, je suis un laïc, mais je suis pour la laïcité 1905. La laïcité 1905, c'est pas de s'en prendre à des religions, c'est pas une vision, j'allais dire, anticléricale de la religion. C'est que les convictions, qu'elles soient religieuses ou pas, sont du domaine du privé, sont défendues. Et par contre, la religion ne se mêle pas de les affaires de l'État.
Vous savez que certains responsables de gauche accusent la France insoumise d'être complaisante avec les islamistes. On vous a même taxé d'être des islamo-gauchistes. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations?
Je réponds que malheureusement, ce que j'appelle l'extrême droitisation de l'espace politico-médiatique, sous impulsion de la force de l'extrême droite, relayée malheureusement par des membres du gouvernement, je pense à messieurs Darmanin, Blanquer et autres, a malheureusement même touché des gens à gauche. Et que... ces gens-là auraient été bien inspirés, par exemple, de manifester avec, comme nous, en novembre 2019, quand une mosquée à Bayonne, il y a eu un attentat contre un croyant de cette mosquée, et ils n'ont pas été en la rue. Nous, on y a été, on se fait traiter d'islamo-gauchistes parce que nous manifestons à côté de nos concitoyens musulmans. Autrement dit, j'ai un peu peur que derrière, enfin, j'ai peur. Non, je crains que derrière cette rhétorique se cache en fait un racisme anti-musulman qui se développent dans la société. Les Nous ferons un barrage par rapport à ça.
Les habitants de Sevran se sont indignés de la mort d'un père de famille tué par un policier lors d'un contrôle. Vous avez beaucoup dénoncé les violences policières durant ce quinquennat. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudra faire pour éviter de tels drames à l'avenir?
J'étais d'ailleurs à la marche samedi de Jean-Paul, puisque c'est son nom, avec ma collègue Clémentine Autain. Ce qu'il faudra faire, c'est, réformer de la police, de la cave au grenier, c'est ce que nous disons. Quand nous disons de la cave au grenier, c'est moins souvent les hommes ou les femmes que les doctrines qu'on les oblige à appliquer. Voilà, donc il faut revenir à une police de proximité qui connaît les gens, qui est une police de prévention, pas des polices qui arrivent de l'extérieur souvent dans des quartiers, ils ont... Eux-mêmes, on leur raconte des choses, ils arrivent, ils ont peur. Enfin, il y a tout un espèce de climat absolument malsain. Il faut un récépissé de contrôle d'identité pour arrêter, pour en finir avec le fait que quand vous êtes, selon que vous soyez noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de risques d'être contrôlé que si vous êtes blanc. Il faut revenir à plus de formation. La police, elle n'a pas arrêté de diminuer, pour notamment avec une formation sur contre le racisme. Il faut que dès lors que quelqu'un manifeste du racisme dans la police, il soit exclu de la police. Il n'a pas sa place dans la police. Et puis de mettre le paquet aussi sur à côté de la police de proximité, sur ce qu'on appelle les EPJ, c'est-à-dire les policiers qui enquêtent, qui démantèlent les trafics de drogue, et qui sont, par exemple, en proportion très faible par rapport à la BAC ou des polices d'intervention de ce type.
Éric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon veut taxer les riches, il veut aider les personnes qui ont de faibles revenus, mais la classe moyenne a-t-elle à craindre de votre arrivée au pouvoir? Je pense aux couples qui gagneraient à deux un peu plus de 4000 euros par mois, aux patrons de petites entreprises, par exemple, qui tiennent un petit commerce et qui se plaignent du montant de leurs charges.
Non, et ces gens-là auront tout à gagner avec nous. On a proposé des mesures sur la fiscalité que je vous invite à aller voir sur notre site Avenir en commun, qui montrent que avec ce que nous proposons, c'est-à-dire on passe à 14 tranches d'impôt sur le revenu, on rétablit l'ISF, on baisse la TVA sur les produits de première nécessité, tous les gens qui gagnent moins de 4 000 euros dans ce pays on gagne avec ce que nous proposons. Voilà. Les gens qui ont au-dessus de 4 000, oui, ils perdent, mais ils ont tellement gagné depuis des années, et c'est normal de participer aussi à la redistribution. Quant aux PME et TPE, vous savez, aujourd'hui, les PME et TPE, elles sont dans un système de financiarisation du capitalisme à l'extrême qui fait que souvent, elles sont obligées elles-mêmes de baisser leur prix, leur contrat, leur prix de vente, leur devis, parce qu'ils ont des gros donneurs d'ordre au-dessus qui, eux, obéissent d'abord à une logique de rentier. Donc avec nous, au contraire, on va remplir les carnets de commandes, notamment avec la bifurcation écologique, c'est-à-dire qu'on va mettre, l'État va mettre 200 milliards, énergie renouvelable, isolation thermique, ça va faire marcher le commerce, vous allez voir.
Pour terminer, Éric Coquerel, qu'est-ce que vous dites aux électeurs traditionnels de la gauche qui hésitent à franchir le pas et à voter pour Jean-Luc Mélenchon?
Alors déjà, vous avez compris que je pense que notre principal réservoir de voix, il est encore dans ceux qui hésitent à aller voter ou pas, premièrement. Si on veut se donner l'occasion de faire en sorte que le barrage Mme Le Pen, on n'ait pas besoin de le faire au deuxième tour, à certains moments, en votant contre nos idées, on peut le faire au premier tour. Ça, c'est un premier argument. Puis le deuxième argument, c'est que s'il croit à une gauche qui est celle du partage des richesses, du partage du temps de travail, d'une plus grande démocratie avec les citoyens en République, qui s'occupe des questions environnementales en pensant que le marché ne peut pas tout résoudre avec la planification écologique, qu'il s'intéresse à notre programme, ils vont voir juste que c'est un programme de gauche. Et que ça vaut le coup peut-être de voter pour nous dimanche.
Merci Éric Coquerel. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.